J'ai été tout à fait intéressée par le type de questionnement et entre autres sur les métiers industriels et la question du relationnel. Voilà, en fait, il y a aussi des façons de nommer différentes. On va parler du collectif de travail. Quand on désigne le collectif de travail, en fait, c'est tout le travail relationnel entre les gens d'une équipe, d'un atelier ou autre. Et où il se passe beaucoup de choses, de négociations, de mise en accord sur le bon travail, les normes professionnelles, etc. Effectivement, mais on l'apprend de façon et on va l'écarter du relationnel. Sur le dernier exemple, sur les fleuristes, alors là aussi je trouve ça tout à fait intéressant, mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, parce que quand vous posez la question du pouvoir finalement, et où est-ce qu'il est finalement du côté donc des femmes clientes, puisque les hommes sont des benêts, ils savent rien, bon d'accord. Mais si on prenait la question du pouvoir en analysant non pas un type de marchandise, un type de valeur d'usage, là, les fleurs, donc où sont les femmes qui sont censées être compétentes, mais l'ensemble du système global des achats. Et alors là, comment ça se poserait? Parce que, alors, on ne va pas faire des... mais ce serait difficile de construire des balances, etc., des poids, mais pensons à la vente des voitures. Alors, à ce moment-là, du côté, certainement, des vendeurs, on va retrouver une petite minorité de femmes. Il y en aura certainement quand même, je ne sais pas, 6%. Mais en tout cas, il y en aura dans une grosse majorité d'hommes. Et puis, à l'inverse, bon, ça a un peu changé ces derniers temps, mais ce sont les femmes qui seront considérées comme les bonnettes et les hommes qui seront... Enfin, vous voyez. Donc, je me dis peut-être que pour aussi bien apprécier cette question du pouvoir, de ces tremblements dans le pouvoir. Et il faut, alors c'est intéressant d'aller voir précisément sur des métiers particuliers, mais aussi se donner les moyens collectivement, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais de reprendre l'ensemble, parce que c'est à ce moment-là quand même qu'on verra globalement, enfin, avoir une vision un peu systémique et où se trouvent les... Parce que quand même, des bouquets de fleurs, ça coûte beaucoup moins cher que des bagnoles, quoi. Enfin, bon, par exemple. Enfin, bon, c'était donc ce type d'interrogation.
Merci. Je réponds au cas par cas.
On va prendre quelques questions, peut-être. Je vais Olivia Quilas.
Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Très bienvenue. J'ai trouvé que c'était très inspirant et très intéressant. Et en fait, j'ai aussi une question par rapport au dernier... ou à votre exemple ethnographique des fleuristes, parce que j'ai trouvé que c'était assez parlant, en fait, que dans les discours des fleuristes, ce sont les compétences des autres qui sont naturalisées comme des compétences genrées, et que les compétences des fleuristes eux-mêmes, dans leur représentation de soi, sont donc des compétences où le genre ne joue pas de rôle. Je me suis demandé si, en fait, vous aviez des discours, des données sur les discours des clients, et comment eux percevaient après les compétences des fleuristes.
C'est... On prend, ça a un lien avec ces questions-là, oui.
C'est une question.
Oui, vas-y.
Oui. Alors, moi, je pense que ce qui m'a beaucoup interrogée, c'est qu'est-ce que c'est le commerce et qu'est-ce que c'est les services, parce que là, ça a été présenté, les fleuristes, comme étant des services, une relation de services, mais pour moi, c'est le commerce. Et évidemment, il y a des liens entre les deux. On peut avoir des services commerciaux, par exemple, mais j'aimerais bien, si tu pouvais nous dire un peu plus des secteurs et des liens entre ce qu'on fait en tant que commerçante, disons, et ce qu'on fait comme étant quelqu'un qui accomplit ou donne un service. L'autre question, c'est, je trouvais que c'était très intéressant, toutes les questionnements sur les relationnels et les féminins et le genre du relationnel. Je crois que c'est toute une série des interrogations plutôt pour qu'on réfléchisse sur un peu les stéréotypes que nous-mêmes nous avons entre les les féminins et les genres, mais ma question est aussi sur les moments où tu as dit que bon, on voit pas vraiment, il faut pas beaucoup différencier l'industrie et les services parce que il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de relationnels, etc. Mais j'ai l'impression que bon, par rapport aux produits ou aux biens qu'on fabrique dans une industrie, évidemment, il y a des relations entre les employés, avec la hiérarchie, etc. Il y a beaucoup d'émotions qui circulent, etc. Mais est-ce que l'émotion et les travaux émotionnels, relationnels, etc., et contribuent pour la production du bien ou du produit de la même manière que, bon, par rapport à une personne âgée, etc. Je veux pas dire que les relationnels ou les services impliquent toujours l'existence d'une personne parce que dans les débats sur les CARE, on peut étendre les services aux planètes, à la maison, à des objets, etc. Donc c'est pas un problème d'être humain ou pas, mais qu'est-ce qui contribue réellement à créer donc un bien, un produit, etc. dans l'industrie. Donc cette discussion que tu as juste évoquée en passant, mais qui me semble intéressante dans le contexte de notre débat ici dans ces colloques entre industrie et services.
On prend peut-être une série de réponses, peut-être.
Oui, je peux là. Oui, oui, parce que j'ai peur de pas savoir.
On prend la deuxième, l'autre question. Après.
Ça fait trop. Là, je commence peut-être avec la dernière question, celle d'Elena. Moi, je dirais, j'en sais rien, mais posons-le nous sérieusement comme question. Je ne sais pas. S'il y a plus d'émotionnel quand il y a un corps de personne âgée que quand il y a un châssis de voiture, j'en sais rien. Allons voir. Enfin, n'acceptons pas l'évidence de l'émotionnel là où il y a de l'être humain ou là où il y a surtout de l'être humain dépendant, fragile, dépendant, etc.
Alors, j'ai fait des enquêtes.
Je sais bien.
Je sais que c'est pas la même chose.
En tout cas, c'était le troisième point que j'ai pas évoqué, de dire que, enfin, je pense aux travaux de Christelle Avril par exemple, ou en tout cas la lecture que j'en fais de ces travaux, c'est de dire que même dans un même métier ou même en ayant affaire à des corps dépendants, la manière d'investir cette dimension relationnelle est hautement variable en fonction de la trajectoire, y compris de la part de femmes, mais en fonction de leur trajectoire antérieure, de leurs expériences d'autres types d'activités, de leur rapport à la dimension vocationnelle du métier, etc., que toutes les femmes qui sont dans les activités de care n'ont pas ce rapport vocationnel et que du coup, ça a des effets directs sur la manière d'investir émotionnellement, en admettant que les émotions peuvent aussi être extrêmement négatives. Hein, je veux dire, en ne pas tombant non plus dans cette idée que l'émotion est nécessairement positive et bienveillante pour les destinataires de ces services. Donc, je dirais que c'est ça, en fait. C'est simplement de se dire, en fait, si on connaît déjà la réponse, si on a déjà fait suffisamment de recherches pour pouvoir dire clairement que quand il y a quelque chose qui est de l'ordre du service, il y a toujours un investissement relationnel qui est toujours de même ordre et que du coup, là, on peut aller de l'avant et prendre ça comme point de départ, ou si à chaque fois, il faut se dire, mais quel est cet investissement? De quel ordre est-il? Est-il du même type de la part de tous les individus en fonction de leur trajectoire, par exemple? Bon. Donc, je dirais, arrêtons de croire que nous connaissons déjà la réponse, sauf quand vraiment nous la connaissons. Après, commerce, service, industrie, ben, j'aurais peut-être un peu la même réponse. Quand est-ce qu'on va... Enfin, le problème, je crois que ça rejoint en partie ce que disait Jean-Pierre Durand tout à l'heure, le problème à insister sur la dimension relationnelle, même sur les souffrances relationnelles qui existent dans les métiers de care, c'est évidemment qu'on occulte totalement toute cette épaisseur de l'activité réelle, du corps engagé physiquement. Enfin, en tout cas, bon, on le fait ou on le fait pas, mais en tout cas, il y a un risque à ce qu'on occulte cette dimension-là du travail qui est quand même tout à fait présente et tout à fait importante. Et si je reviens sur la question de connaît-il des vendeurs de voitures, mais évidemment, il n'en est pas la même chose, des vendeurs de voitures, évidemment. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un schéma analytique qui vaut sur toutes les situations de travail et qui est transférable d'un contexte socio-historique à un autre, d'un groupe professionnel à un autre, à une situation de travail à un autre. Et c'est terrible, parce qu'on aimerait bien avoir des analyses un peu voilà, globalisantes, mais très probablement chez les vendeurs de voitures, on n'a absolument pas le même type de construction indigène des compétences sexuées et sans doute pas du tout les mêmes types de construction de compétences ou d'incompétences chez les clients. Très probablement. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça pour analyser qu'est-ce qui se joue au niveau des rapports de classe, d'ethnicité, de sexe à l'intérieur de ces situations-là de travail? C'est plutôt ça la question. Et enfin, non, nous n'avons pas, malheureusement, de discours, nous n'avons pas analysé du côté des clients leur manière de définir les compétences sexuées des fleuristes, malheureusement.
Oui, merci Nuki pour ta présentation. J'avais un commentaire et une question. Le premier commentaire, c'était concernait le premier point que tu as soulevé, que j'ai trouvé très pertinent sur la place du relationnel dans l'œil des chercheurs et des chercheuses ou chercheuses. Et cette reproduction un peu des stéréotypes dans la pratique de la recherche et cette association systématique à travailler sur les métiers relationnels et associer les métiers fortement féminisés et précaires, notamment le travail domestique, ce qui m'a fait réfléchir à mes propres recherches, bien sûr. Je trouvais aussi, pour prolonger ta réflexion, je trouvais intéressant aussi de questionner l'association qui a souvent été faite dans la recherche entre intersectionnalité et travail domestique, qui est vraiment centrale et qui a toute sa pertinence. Mais aussi mener en parallèle à ces recherches, aussi décentrer le regard et dire, ben voilà, au lieu de toujours aller associer inégalité aux plus précaires, aussi aller questionner la construction des privilèges chez les élites transnationales, les constructions de déblanchité. Il ne faut pas hiérarchiser les deux recherches, mais les mettre en perspective pour aussi comprendre cette complexité des rouages de l'intersectionnalité. Et ma question concerne la recherche d'Isabelle. J'ai trouvé très, très pertinent cette idée de la représentation de l'incompétence et de la compétence des clients et des clientes, qui est fortement structurée par des rapports sociaux de sexe et des stéréotypes de genre. Et je me demandais si dans sa recherche, Isabelle avait aussi examiné la question des normes de blanchité aussi de l'hétéronormativité qui structurait les représentations des clients et des clientes, où elle s'était cantonnée plus au genre, et comment du coup ces différentes représentations s'imbriquaient sur la vision des clients et des clientes. Merci.
Merci. Alors, Aurélie Jantet, j'ai trouvé très intéressante votre présentation, mais ça m'a fait me poser pas mal de questions, notamment le fait que c'est quand même un univers, milieu professionnel très particulier, non seulement qui est très féminin, c'est-à-dire dans sa composition au niveau des fleuristes, mais aussi dans la connotation des fleurs, effectivement, qui serait du côté du féminin. Et que du coup, ça pose aussi la question de la féminisation de ces hommes fleuristes, au-delà du stéréotype de l'homme fleuriste efféminé, si ce n'est homosexuel, qui peut exister. On peut se demander, on sait aussi que les hommes sont plus facilement intégrés dans des collectifs, dans des métiers féminins que l'inverse, mais on peut aussi s'interroger sur sur le fait que voilà, ces hommes fleuristes, est-ce que du coup ils développent une identité sexuelle féminine, est-ce que ce sont des femmes comme les autres, parce que enfin voilà, comment ils se constituent comme hommes. Donc ça, c'est plutôt sur la question des collectifs et des relations entre collègues, et parce que ça me fait penser aussi à une recherche qui avait été menée sur les sages-femmes et sur les hommes sages-femmes. Donc là, on a aussi voilà, une profession très féminine avec un travail qui est connoté de façon très féminine, hein, pour le voilà, évidemment la naissance, le corps des femmes, etc. Mais en même temps, où là, cette recherche montrait que les hommes sages-femmes développaient un tout autre rapport au travail, avaient une place distincte à l'intérieur du métier, et avaient développé des relations assez viriles, avec un humour très cru, et se permettaient de dire des choses que les femmes sages-femmes ne se permettaient pas de dire, par exemple. Mais là, on est dans un milieu qui est le milieu hospitalier, donc médical, qui est aussi, où il y a une culture de la virilité qui existe malgré la féminisation du corps des médecins. Excusez-moi, je suis un petit peu longue, je vais aller plus vite, mais sur la question du discours pratique, je trouvais que c'était vachement intéressant, évidemment, que vous mettiez l'accent sur le fait que attention, les pratiques, ce ne sont pas les discours, mais en même temps, ça va quand même dire que le fait qu'il y ait des discours différents, c'est quand même important. C'est-à-dire que c'est, du coup, les pratiques sont différentes aussi, malgré tout, je pense. Alors, j'imagine que vous attendez des résistances par rapport à ces résultats. C'est-à-dire, voilà, c'est quand même, évidemment, on est un peu sceptique, quoi. Est-ce que vraiment c'est pareil? Moi, chez les guichetiers à la poste, j'avais effectivement rencontré des hommes et des femmes qui parlaient pas de la même manière de leur métier. Effectivement, les guichetiers mettaient plus l'accent sur l'aspect technique et aussi sur les principes, les grands principes du service public, de l'égalité, pour aussi mettre un peu de distance dans leur relation avec les clients, même s'ils étaient tout aussi proches en réalité. Mais au niveau des discours, c'était pas pareil que chez les femmes. Mais du coup, il y avait quand même, c'est quand même important en fait ces manières de concevoir la relation qui font, enfin voilà, où il y a quand même du coup des choses, mais de façon très fine, qui sont différentes, qui se passent dans la relation. Et je voulais terminer sur, en donnant la parole à Guillaume, sur, puisqu'il a été dans le comparatif que je trouve effectivement vachement intéressant entre des métiers qui sont très différents, valorisés de façon différente, les caissières et les kinés. Hein, et je trouve qu'effectivement, c'est, même si tu es organisateur, tu as peut-être le droit de prendre la parole aussi.
Oui, vas-y. Oui, vas-y. Je vais perdre le fil. Merci beaucoup de ces questions qui évidemment, hein, recoupent les miennes. Dans l'article, avec Isabelle, effectivement, on montre que non, pas du tout, ces hommes fleuristes ne sont pas du tout les femmes fleuristes comme les autres. Ils ont un discours très, très clair sur leur masculinité assez normé, hein, on est assez loin du modèle du stéréotype de l'homme fleuriste homosexuel. Ils ont un discours très clair sur pourquoi, ils arrivent à expliquer de manière très rationnelle pourquoi quand on est un homme fleuriste on devient propriétaire de magasin et quand on est femme fleuriste on le devient pas. Donc en fait ils charrient des tas de stéréotypes, pas seulement à propos des clients, mais aussi à propos des hommes et des femmes. Donc notre propos n'est pas de dire, dans ces métiers-là, en quelque sorte, les hommes, ils perdraient de leur privilège d'hommes. Donc ils ont des discours tout à fait... Tout ce qu'on dit, c'est que ces croyances-là, ces catégorisations-là, ne sont pas opératoires au moment où on décide de qui fait quoi dans le magasin. Ils sont affreux pour beaucoup d'entre eux. Ils ont pas du tout des discours égalitaristes, ni à propos des clients, ni à propos d'eux-mêmes, ni à propos de. Le contexte suisse est assez particulier parce qu'en fait, le métier est hyper féminisé, mais en fait, les femmes y entrent en grand nombre et n'y restent pas. Et les hommes entrent en petit nombre, mais y restent. Donc en fait, on n'a pas du tout la même répartition au niveau des classes d'âge non plus. Et l'association Fleurs Féminin, je pense qu'elle mérite aussi une certaine interrogation, parce qu'en fait, l'horticulture est une activité absolument très, très dominée par les hommes. Donc, en fait, on est entre la production de fleurs et la commercialisation de fleurs. Et là aussi, il y a des associations qui varient. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que les hommes fleuristes aussi s'appuient souvent sur... D'ailleurs, ils viennent plus souvent que les femmes de familles d'horticulteurs, etc. Et donc, ils s'appuient sur cette... Enfin, il n'y a pas cette association fleurs féminin, disons, ou pas de manière évidente. Alors, du coup, bien sûr, il y a à la fois la possibilité que les discours soient variables et que les pratiques soient variables et que les discours soient parfois conformes aux pratiques et parfois pas. Donc évidemment, c'est tout ça qu'il faut analyser. Mais je pense que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec le fait que les discours sont conformes ou pas conformes ? Quels outils analytiques on a à disposition ? Alors après, sur les pistes d'analyse que Isabelle a pu développer dans sa thèse, effectivement, sur la blanchité, alors là, je dois dire que... rien, malheureusement. Je suis tentée de dire c'est le contexte suisse, mais en fait non, c'est pas vrai, parce que à mon avis ça pourrait tout à fait. Par contre, sur les hétéronormativités, oui, un peu, parce que évidemment cette figure de l'homme fleuriste homosexuel flotte un peu au-dessus de tout le monde et surtout au-dessus de la tête des hommes. Donc il y a effectivement une forme d'affirmation d'une certaine manière. D'une hyper normalité masculine d'emblée, enfin, chaque fois qu'elle a rencontré un homme fleuriste, il parle tout de suite, immédiatement, du fait qu'il est marié et qu'il a des enfants. Je veux dire, c'est une espèce de truc. Et par contre, ce qu'elle montre de manière assez intéressante, même si évidemment ce serait quelque chose à creuser, c'est que les hommes homosexuels qui assument leur sexualité se placent évidemment plutôt du côté du pôle créativité que du pôle sens commercial, disons, dans cette tension permanente à l'intérieur du métier. Mais du coup, ils ne deviennent jamais complètement dominants. Voilà. En fait, c'est quand même la performance, le fait de fabriquer des bouquets que les gens essaient d'acheter, et si possible assez cher, qui l'emporte sur la dimension inventivité, créativité, etc. Donc, ils ont une masculinité subordonnée, je dirais, à l'intérieur du groupe professionnel, pour dire des choses trop rapidement. Mais bon, ils sont que 6%, et dans les 6%, on va dire qu'il y a à peu près 6% d'homosexuels. Donc en fait, ça demanderait à être davantage travaillé autour de ces questions. Mais en tout cas, une espèce d'hétéronormativité affirmée, y compris de la part des hommes, c'est évident dans ce métier-là. Et la question de est-ce qu'on mobilise la grille d'analyse de l'intersectionnalité seulement pour parler des métiers subordonnés, alors là, c'est une excellente question. À mon avis, oui, un peu trop. Mais
ouais. Guillaume.
Oui, bon bah. Ouais. Moi, je veux bien. Du coup, ce sera pas spécialement une question, mais plutôt quelques éléments qui ressortent aussi de mes enquêtes et qui peuvent nourrir ces réflexions. Il y aurait beaucoup de fils à tirer parce qu'effectivement il y a eu des comparaisons de différents métiers dans mes travaux et je pense par rapport au point qui a été soulevé ce matin, notamment la compétence des clients. Moi, mon approche a été justement de ne pas partir du principe que le client est profane comme on l'a souvent pensé, mais qu'il fallait plutôt le poser en termes de différentiel de compétences pour comprendre ce qui se joue dans la relation de service. À savoir que dans certaines situations, j'avais des téléopérateurs, par exemple, qui étaient dominés par des clients qui s'y connaissent mieux qu'eux. Hein, et que ça conditionnait assez fortement le cours des interactions. Et qu'à l'inverse, il y avait un vrai différentiel de compétences qui allait être en faveur du professionnel, typiquement dans le cas des kinésithérapeutes. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect par rapport à l'intervention, c'est toujours sur la compétence des clients. quand j'étais vendeur chez Laurent Merlin, donc en observation participante, on est dans le milieu du bricolage cette fois-ci, on avait soit de la part des vendeurs, soit de la part des clients, des stéréotypes qui ressortaient, à savoir que les vendeurs, dès qu'on allait vendre du parquet, s'adressaient prioritairement quand les personnes viennent en couple, aux hommes, en pensant que c'était l'homme systématiquement qui allait mettre en place ce parquet, alors que très fréquemment, et de plus en plus, les enquêtes qui sont mises en place dans la grande distribution spécialisée dans le bricolage le savent, les femmes bricolent de plus en plus, et donc il n'était pas rare qu'elles passent devant leur homme pour leur dire « Bon, finalement, ça ne sert à rien de s'adresser à lui, il ne connaît rien, et de toute façon, c'est moi qui vais le faire. » Donc ça, on rejoint un peu le même type de constat où, a priori, on pense que on assigne un certain nombre de compétences aux hommes, a priori, alors qu'en réalité, il y a parfois des écarts et parfois même très importants. Et à l'inverse, ça pouvait être aussi l'homme qui, pris dans la situation, se dit « Bon, faut que je joue mon rôle d'homme, donc c'est moi qui vais donner les cotes, parce qu'on va prendre des portes de placard sur mesure. » Puis au bout d'un moment, on voit qu'il y connaît rien, et c'est la femme qui passe devant. « Bon, de toute façon, fais pas comme si c'est toi qui allais le faire vis-à-vis du vendeur. » Ou une sorte de connivence entre le vendeur et le client, et on voit la cliente qui surgit et nous montre à quel point finalement elle a des compétences techniques dans le bricolage contre, entre guillemets, toute attente.
Si je peux rebondir, moi ma question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Analytiquement, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Oui.
Ouais. Comment est-ce qu'on analyse ces situations en termes de multiplicité des rapports de pouvoir qui se manifestent dans des situations de commerciales plutôt que de services, mais bon, pour moi c'est le secteur tertiaire c'est le service qui est l'objet de l'interaction. C'est là, je pense, qu'on a des défis.
Voilà, bon, je pourrais continuer avec des tas d'autres exemples, mais je m'arrêterai là. C'était.
Oui, c'est bon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions encore ? Non ? Une dernière, Annalisa Tonarelli.
Oui, merci. J'ai trouvé l'intervention de Nick Lefebvre très intéressante et très questionnante. Je voulais poser une question. Vous portez une expérience qui ne tient pas au sujet de mon exposé d'hier, mais tient à une recherche sur les avocats que je suis en train de faire depuis quelques années en Italie. Et alors, justement, pour ce qui tient aux avocats, la relation entre compétences techniques, compétences relationnelles, ça se pose fortement. Et il y a aussi la question de la hiérarchisation des compétences. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que, dans ma recherche, c'est que de plus en plus, les avocats ont tendance à se pencher vers des formes d'exercice de la profession qui sont plus caractérisées par la relation, notamment pour toutes les techniques des résolutions souples des controverses, donc la médiation, etc. Alors moi, j'ai fait un supplément de recherche sur les avocats qui avaient opté pour la médiation. Alors d'abord, on voit qu'il s'agit surtout des femmes, mais il y a aussi des hommes qui arrivent dans la médiation et qui se positionnent dans la profession d'avocat à un plus bas niveau. Alors, normalement, c'est choisir pour la médiation, ça répond aussi à des enjeux économiques. Alors, s'affirmer dans la profession aujourd'hui en Italie, c'est très, très difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avocats. Alors, on essaie de se différencier sur les marchés. Alors, je pense que cette différenciation qui répond à un enjeu économique de marché vers les relationnels, ça me paraissait intéressant. Je voulais justement demander à Niki, qui s'est intéressée aux avocats aussi, comment est-ce qu'elle voit la question. Et d'abord, je reviens sur la tension entre créativité et sens commercial. Et ça me paraissait vraiment très intéressant. Et je me demande si on ne peut pas retrouver cette tension que je pourrais dire entre relation ou bien expression de soi, investissement émotif dans les travaux et enjeux économiques donc cadrer les budgets aussi dans d'autres métiers que les fleuristes. Merci.
Merci bien.
En fait, j'ai le cerveau un peu desséché, là, je pense.
C'est la dernière.
Le relationnel, les compétences relationnelles comme objet d'échange, hein, quelque chose qui devient marchandisé, enfin qui devient, ça je pense que c'est vraiment tout à fait intéressant, et c'est peut-être l'avantage du coup de faire d'aller traquer le relationnel dans des métiers qui sont plutôt des métiers qualifiés où on pourrait sans doute trouver la même chose du côté des médecins, hein, où on voit qu'il y a quelque chose qui tourne autour de un discours sur la qualité de l'écoute et sur la durée des consultations, etc., où on voit bien que dans un métier où quand même les compétences techniques sont absolument fondamentales mais du coup on va trouver le relationnel vraiment comme quelque chose que l'on valorise sur un marché plus ou moins concurrentiel. Là pour le coup le marché médical en France pas du tout concurrentiel, mais le marché du droit extrêmement concurrentiel, et qu'est-ce qui se joue autour des processus de féminisation et de marchandisation du relationnel. Ça je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant. J'ai pas travaillé là-dessus, mais je pense que vraiment ça mérite d'être approfondi. Oui, et d'une certaine manière, oui, je pense que ça rejoint ces questions de... En fait, je pense à ça parce qu'on est en train de réfléchir sur un colloque à Lausanne autour de l'intelligence artificielle et la restructuration du marché du travail, mais ça, bizarrement, ça me fait penser à ça. Cette idée de, une fois qu'on a routinisé, qu'est-ce qu'il y avait à routiniser dans ces métiers plutôt bien qualifiés et plutôt diplômés, qu'est-ce qui reste? Enfin, voilà. Et ce qui reste, c'est effectivement quelque chose qui renvoie à une forme de personnalisation, je vais dire, des professionnels du droit, où ces compétences, appelons ça relationnelles, en tout cas quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la maîtrise de la technique du droit, mais qui est quelque chose qui intervient dans la manière d'interagir avec ses clients, devient du coup une espèce de valeur sur un marché concurrentiel qui est... mobilisable en tout cas. Alors est-ce que c'est dans les pratiques ou est-ce que c'est dans les discours, est-ce que c'est un peu dans les deux, j'en sais rien, mais en tout cas ça c'est intéressant.